en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Parmi les grands orientalistes et sinologues de l'Académie des inscriptions et belles-lettres figure incontestablement Henri Maspero. Henri Maspero, né à Paris en 1883, a été élu à l'Académie le 1er février 1935 et il a siégé durant 10 ans jusqu'à sa mort à l'Académie. Sa mort qui fut d'ailleurs tragique puisque c'est dans le camp de Buchenwald en Allemagne qu'il mourut le 27 mars 1945. Il avait été chargé de mission en Chine dès 1914 et après la Première Guerre mondiale, il occupa la chaire de langue et littérature chinoise au Collège de France et fut professeur à l'Institut des hautes études chinoises. Et comme plusieurs de ses confrères académiciens, il était membre de la Société asiatique. Aucun aspect de la civilisation chinoise ne lui était étranger. Il s'était intéressé autant à l'histoire des religions chinoises qu'à celle des sciences, à la philologie et à la littérature, à l'archéologie et à l'épigraphie, à la linguistique et à la comparaison des langues sino-tibétaines. Parmi les nombreux ouvrages qu'il a publiés, Canal Académie en a choisi un, celui qui s'intitule « Les institutions de la Chine, essai historique ». Cet ouvrage d'Henri Maspero a été préfacé par Paul de Miéville, autre éminent sinologue de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Paul de Miéville, né en 1894 et qui avait été élu à l'Académie en 1951 et qui est décédé en 1979. Avec Paul Pelliot, Paul de Miéville et Henri Maspero, l'Académie comptait parmi ses membres 3 éminents sinologues dont les travaux font encore autorité. Henri Maspero avait laissé de nombreux manuscrits inédits, notamment une étude sur les institutions de la Chine. Il en avait ébauché le plan, rédigé certaines parties, mais ce n'était qu'une esquisse. Et c'est Jean Escara qui a poursuivi ce travail pour l'achever et permettre sa publication. Je vous propose d'écouter la préface rédigée par Paul de Miéville au livre « Les institutions de la Chine » d'Henri Maspero.
Dans cet essai sur les institutions de la Chine, le mot « institution » a été entendu en un sens très large. Il ne s'agit pas seulement des institutions politiques et administratives, celles dont se sont presque exclusivement occupés les historiens chinois recrutés de tout temps dans la classe des fonctionnaires et que leur formation orientait vers les questions de gouvernement. Les institutions sociales et économiques, l'évolution de la pensée religieuse et philosophique, celle des tendances littéraires et artistiques, sont ici caractérisées période par période à travers 3 millénaires d'une histoire qui n'intéresse pas moins l'humanité que celle de l'Europe, mais dont celle-ci s'obstine à rester ignorante. C'est en réalité de toute l'histoire de la Chine que le public français trouvera ici un solide et brillant raccourci, non pas une simple narration des événements tels qu'il en existe déjà, mais une œuvre adaptée au goût et aux exigences de l'historiographie actuelle. Il n'était pas facile de rebrasser ainsi, pour la couler dans un moule nouveau, l'énorme masse de documents chinois encore mal inventoriés, à peine effleurés de ci de là par la critique, et qui se présentent dans le cadre d'une tradition historiographique très différente de celle qui nous est familière. Et il ne fallait pas non plus tomber dans l'excès opposé, celui d'une perspective par trop occidentale. Entreprise peu avant sa mort, survenue en 1945 au camp de Buchenwald, par le meilleur historien moderne de la Chine antique, le très regretté Henri Maspero, professeur au Collège de France, cette tâche délicate a été complétée et achevée par Jean Escara, professeur à la faculté de droit de Paris, chargé de cours à l'Institut des hautes études chinoises et dont les travaux sur l'histoire du droit chinois font autorité, qui a souvent séjourné en Chine et n'ignore rien des publications sinologiques même les plus récentes. L'un comme l'autre ont puisé aux sources les plus sûres. Ils n'ont rien avancé à la légère. Et s'il leur arrive de mentionner, dans un passé reculé, plus d'un fait qui éclaire l'actualité la plus brûlante, on peut se fier à leur témoignage. Ils ont laissé parler l'histoire.
Henri Maspero a évoqué l'histoire de la Chine selon un tableau chronologique qu'il avait établi ainsi. L'époque légendaire, les empereurs mythiques, ceux qui ont inventé l'agriculture, les rites, les noms de famille, la médecine. Puis l'Antiquité, c'est-à-dire du XIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Puis l'Ancien Empire, de l'an 249 jusqu'au IIIe siècle de notre ère. Arrivent alors les invasions barbares, IIIe, IVe, Ve et VIe siècle de notre ère. Puis le Moyen Empire, de 500 à 700. Les nouvelles invasions barbares, et c'est là qu'est évoquée la figure de Kubilai Khan, 1260-1294, et la restauration de l'unité de l'Empire par les Mongols, et enfin ce qu'Henri Maspero appelle la Chine moderne, c'est-à-dire les dynasties des Ming, des Qing, qui courent du XIVe siècle à nos jours. Mais la période contemporaine, qui s'arrête d'ailleurs en 1912, est à peine abordée. Je vous propose la lecture d'un court extrait du chapitre intitulé « L'époque moderne ». Je l'ai choisi parce qu'Henri Maspero y évoque brièvement l'un des plus célèbres visiteurs de l'Empire chinois, Marco Polo.
On s'est parfois étonné des connaissances limitées sur la Chine et les Chinois dont fait preuve Marco Polo en face de ses observations pertinentes et détaillées de la vie et de la civilisation des Mongols. Le fait n'a rien de surprenant si l'on songe que Marco Polo était l'ami des souverains mongols qui régnaient alors sur la Chine et qu'il avait été placé par eux à la tête de la préfecture de Yangchiu, dans le Jiangsu. Ayant résidé assez longtemps en Asie centrale, il s'était familiarisé avec les coutumes et la langue des Mongols. Mais en tant que fonctionnaire mongol, il trouva inutile d'apprendre le chinois. Il ne disserte pas sur l'écriture chinoise, il ne fait pas mention du thé. Il confond les pratiques chinoises en matière de mariage avec les usages de l'Asie centrale. De même que le dernier des empereurs, Liao, ignorait la répulsion de ses sujets chinois pour le laitage, Marco Polo attribue aux Chinois des habitudes alimentaires qui sont celles d'une économie pastorale. Il est vraiment significatif que, sous le règne de Kubilai Khan, un étranger ait pu devenir fonctionnaire en Chine et même fonctionnaire distingué, avec une connaissance si limitée de la population chinoise. Malgré de faibles et tardives concessions et une certaine assimilation culturelle avec les Chinois, on a pu dire que l'incapacité des Mongols à établir une symbiose acceptable avec le peuple conquis est responsable pour une part non négligeable de la durée limitée de leur empire. Pour les Mandchous, les chances d'une telle symbiose se présentaient beaucoup mieux dès l'origine. On ne dira jamais assez combien les Mandchous étaient chinois au moment où ils entrèrent en Chine, a-t-on fait remarquer. Comme leurs ancêtres, les Yuchen, les Mandchous étaient éleveurs de bétail et avant tout agriculteurs, mais solidement établis dans des villages, des villes ou sur des domaines fortifiés, ils étaient plus familiarisés avec les problèmes d'une société agricole avancée telle que la société chinoise. 18 ans avant leur entrée à Pékin, leur souverain accomplissait déjà les grandes cérémonies chinoises en l'honneur de l'agriculture. À bien des points de vue, le désir de sinisation des Mandchous était manifeste. Aussi, leur résistance culturelle à une assimilation complète n'en apparaît que plus remarquable. Les Mandchous demeurèrent essentiellement une race de conquérants militaires, et ce sont leurs bannières qui, jusqu'à la révolte des Taiping 1850-1864, restèrent les piliers de la défense de l'Empire. Si par exception quelques Mandchous, voire des souverains comme Kang Yi et Qianlong, excellèrent dans leur culture chinoise, la masse des conquérants demeura dans l'ignorance d'une civilisation qui ne l'intéressait pas. résidant en Chine au sud de la Grande Muraille, ayant dû par la suite adopter la langue chinoise et certaines habitudes chinoises de vie, les Mandchous trouvèrent indispensable de marquer très nettement leur domination politique. C'est pourquoi ils obligèrent les hommes de la population chinoise à porter des vêtements mandchous et à laisser pousser leur natte en signe de soumission. Ils interdirent aux femmes mandchous d'épouser des Chinois, ils rédigèrent leurs documents officiels et firent leurs proclamations en mandchou et en chinois.
C'est grâce à la voix de Fernand Guillot que vous avez pu écouter un extrait du livre d'Henri Maspero, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, « Les institutions de la Chine, essai historique », un livre qui était paru aux presses universitaires de France en 1952.